Réindustrialiser la France, l'impossible relocalisation de l'industrie, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 9 mars 2022.
Au fait de sa gloire en 2001, Serge Tchuruk, PDG d'Alcatel, avait déclaré « Je veux transformer le groupe en une société sans usine ». Depuis lors, 40 ans de désindustrialisation ont ouvert des plaies béantes. L'épidémie de Covid a relancé le désir de reconquête industrielle. La guerre en Ukraine aussi. C'est le thème de notre table ronde. Qui a bouté l'industrie hors de France? Comment relocaliser? Quelles initiatives se font jour? Quelles solutions avons-nous? C'est Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique qui en a eu l'idée. Bonjour Sophie de Menton.
Bonjour.
Avec nous également, et un petit mot bien sûr pour présenter Éthique, entreprise à taille humaine indépendante et de croissance, un mouvement représentatif du tissu entrepreneurial français puisqu'il fédère un écosystème de plus de 300 entreprises de toute taille.
Nous avons et 12 fédérations professionnelles.
Et effectivement. Et avec nous ce matin en ouverture, un ministre, Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'activité, est avec nous. Il est précisément en partance pour cet enjeu de commerce extérieur. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir donné la possibilité d'échanger avec vous ce matin.
Alors, c'est vrai qu'on a vu énormément d'emplois perdus dans l'industrie ces dernières années. Vous battez précisément pour que des entreprises françaises se développent. Comment l'État accompagne-t-il ce mouvement? Il y a quand même beaucoup de défis en jeu.
Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Là, je suis à l'aéroport, je m'envole pour l'Inde. C'est que l'Inde est un pays assez stratégique dans notre stratégie indo-pacifique, tant française qu'européenne. J'aurai l'occasion de rencontrer mon homologue indien pour parler des questions de commerce, notamment des questions de droit et propriété intellectuelle pour les vaccins, mais aussi de voir de comment la France, en tant que présidence du Conseil de l'Union européenne, peut accélérer le partenariat avec l'Inde dans le cadre, encore une fois, de cette stratégie indo-pacifique. Alors, nous avons besoin, évidemment, d'une industrie plus forte en France, de produire davantage en France pour exporter. Une des raisons, structurelles de notre déficit de la balance commerciale, c'est la désindustrialisation de notre pays que vous avez rappelé tout à l'heure. Il est donc absolument crucial de réindustrialiser la France pour repartir encore plus fort à la conquête du monde en matière de commerce extérieur. Notre commerce extérieur, il est structurellement déficitaire en matière de biens, il est positif en matière de services, il ne faut pas l'oublier, il faut même insister, on bat d'ailleurs des records cette année, en 2021, mais en biens, on est structurellement déficitaire du fait de cette désindustrialisation. Alors, en 2021, il y a eu des raisons aussi un peu conjoncturelles, le renchérissement de la facture énergétique et un certain nombre de secteurs traditionnellement très forts à l'international comme l'aéronautique qui ont été particulièrement touchés par la crise Covid et qui ne sont pas revenus à leur niveau de 2019, d'avant-crise, alors même que d'autres secteurs sont revenus au même niveau, voire ont dépassé leurs résultats de 2019. Je pense à la chimie, je pense à la cosmétique, je pense au textile, à l'agroalimentaire et à l'agriculture. Et donc, pour faire face à ce défi du commerce extérieur et ce défi de l'industrie, on a quelques leviers très importants. Le levier de la compétitivité, il faut qu'en France, on soit compétitif pour permettre à nos entreprises de se développer de la meilleure façon possible. C'est les leviers fiscaux, les leviers de simplification, les leviers de formation, bien évidemment. Il y a le levier de la réindustrialisation, c'est-à-dire une vraie stratégie de filière pour réindustrialiser le pays. C'est tout le travail qui est fait pour repenser les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur, pour relocaliser une partie de ces chaînes de valeur en France, pour pouvoir, encore une fois, davantage produire en France. Et c'est aussi investir pour l'avenir, c'est l'innovation, et c'est tout au cœur du projet France 2030, de investir avec les entreprises dans l'accompagnement des secteurs qui sont les secteurs d'avenir pour nos entreprises. Troisième levier qui est très important, c'est le levier de la transition énergétique qui prend évidemment une lumière toute particulière avec ce qui se passe en Ukraine. Le quatrième levier, c'est la politique commerciale. Et oui, il faut que nos entreprises soient moins exposées à une concurrence déloyale, qu'il y ait davantage de réciprocité. Et là, je peux vous assurer que le changement de paradigme de la politique commerciale européenne est très important. On y est en plein travail en ce moment de cette refonte de la stratégie de la politique commerciale européenne, avec notamment, je le dis, et c'est important, des instruments qui sont en train d'être mis en place, de, par exemple d'ouverture des marchés publics qui doivent être réciproques. Là, aujourd'hui, l'Europe ouvre ses marchés publics aux entreprises du monde entier, alors même que beaucoup de pays n'ouvrent pas leur propre marché public aux entreprises européennes. On va avoir la possibilité là, et c'est la fin de la naïveté en matière européenne, de forcer nos partenaires de pays tiers extérieurs à l'Union européenne à ouvrir eux aussi leur marché public. Merci. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis le dernier levier, c'est le levier de l'accompagnement des entreprises. C'est comment on fait pour mieux accompagner les entreprises dans leur stratégie à l'international. Ça a été la création de la Team France Export. Vous savez, c'est le rassemblement de tous les acteurs de l'export au service d'une ambition à l'international sous forme de guichet unique. Et c'est les moyens concrets qu'on met au service des entreprises pour exporter, les financements, les VIE, l'accompagnement stratégique.
Merci, monsieur le ministre. À l'initiative de ce colloque, Sophie de Menton aimerait vous poser une question.
Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mon cher Franck. Je sais que vous êtes effectivement pro-entreprise, vraiment dans l'âme. Mais quand je vous écoute, je suis finalement un peu désespérée. Vous avez raison, surtout, sauf que la réalité, c'est qu'il y a trop d'États et que si nous en sommes là, c'est à cause de l'État. C'est bien à cause de l'État. C'est l'État qui a bouté les industries hors de France. Et je suis ici avec Loïc Le Froc-Pléjean qui a présidé notre commission industrie et qui a eu effectivement l'intelligence avec des industriels de toute taille de faire un constat. Le constat, il est navrant. On est bloqué partout. On a des normes à n'en plus finir. On a des contrôles à n'en plus finir. On a des obstacles à n'en plus finir. Alors, c'est formidable qu'on ait un pigeon voyageur comme vous, monsieur le ministre, et je suis convaincue que vous faites le maximum, mais rien n'a été fait pour aller. Ce sont des mots. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je fais une petite diversion parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Je crois que la désaffection des Français, elle est dans des programmes qu'on peut énoncer, qui sont parfaits sur le papier, et la réalité est toujours là, avec trop d'États qui bloquent tout.
Alors, on laisse le ministre répondre.
Oui, on va le laisser répondre
et
tout de suite.
Je remercie Loïc Le Froc-Pléjean, qui sera l'hôte de la première table ronde. On poursuit tout de suite, monsieur le ministre. On vous écoute.
Oui, merci, Sophie. Clairement, c'est vrai, une grande partie de la raison de la désindustrialisation, c'est le manque de politique publique, notamment au niveau national, pour améliorer et faciliter la compétitivité de notre pays. Bien sûr, je jetterai pas l'État, si je puis dire, avec l'eau du bain. Hier, on était avec le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, à recevoir toutes les filières économiques. Et qu'est-ce qu'elle nous demande ? De l'État. Elle nous demande un accompagnement de l'État. Et on a vu que pendant la crise Covid, les entreprises ont demandé l'intervention de l'État.
On ne vous demande pas des normes, on ne vous demande pas des blocages, on ne vous demande pas des lois.
Non mais Sophie, bien sûr, mais attendez, Sophie, l'État, c'est certes peut-être des normes parfois, mais c'est aussi des moyens et des accompagnements. Et pendant la crise Covid, le quoi qu'il en coûte, il a été utile,
évidemment,
pour permettre à nos entreprises. Oui, mais c'est l'État qui a été là et qui a été au rendez-vous. En revanche, suite sur la différence entre les mots et les actes, où il y avait des mots qui étaient pendant des années mis en avant par les politiques, par exemple sur la fiscalité, qui est importante en matière de compétitivité. L'impôt sur les sociétés, 33% en 2017, on est à 25% en 2022. 25%. L'impôt sur la fortune, dont on sait que c'est une des raisons majeures de la destruction des entreprises familiales dans notre pays. Cet impôt complètement fou qui a cassé cette structure d'industrie familiale qu'on a en Italie ou en Allemagne et qui ont été détruits en France. Et ben, on a eu le courage, le président de la République a eu le courage de supprimer cet impôt sur la partie qui concerne les valeurs mobilières pour permettre de génération en génération dans l'avenir à des entreprises familiales de continuer à investir sur le temps long. Et sur les normes, il y a des normes qui sont utiles. On a besoin aussi de normes qui permettent de faire la différence avec d'autres produits en termes de qualité, en termes de
sécurité. On rajoute des normes par rapport à l'Europe même. On rajoute des normes par rapport à l'Europe.
Et en plus, un petit mot sur l'écologie qui là nous plombe complètement. La surtransposition, Sophie, la surtransposition, et ça c'est vrai, mais on a... Il reste beaucoup à faire, on part de tellement loin. Mais il y a eu beaucoup de lois, et les chefs d'entreprise qui nous écoutent le savent très bien, qui ont été votées pendant le quinquennat et qui ont commencé à assouplir les contraintes et à simplifier les choses. La loi PAC, la loi ESSOC et d'autres lois qui ont permis de simplifier la vie des entreprises, notamment dans les négociations sociales au sein des entreprises. Je pense par exemple au comité d'entreprise simplifié. Et je pense à un grand nombre de simplifications qui ont déjà été opérées.
Monsieur le ministre,
mais tu as raison, il faut aller encore
plus loin.
Ministre,
la France préside l'Union européenne. Si on relocalise, l'Europe est une aide dans cette démarche ou on en est de cette relocalisation dans ce cadre-là ?
D'abord, je rappelle que l'Europe est en train de bouger à vitesse grand V, accélérée par la crise Covid et accélérée par la guerre en Ukraine, et tant mieux, mais aussi sous influence française. Rappelez-vous le discours de la Sorbonne, et ce que le président de la République a défendu avec beaucoup de force depuis 2017, qui est la souveraineté européenne, l'affirmation d'une autonomie stratégique, est quelque chose qui est en train de rentrer dans l'ADN de l'Europe. Alors, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de travail, croyez-moi, et je passe... ainsi que mes collègues, beaucoup de temps à essayer de convaincre un certain nombre de nos partenaires européens de bouger. Mais concrètement, sur la politique commerciale, je le disais tout à l'heure, on est en train de se doter d'outils qui vont nous permettre d'affirmer cette autonomie stratégique européenne. Je parlais de la réciprocité dans les marchés publics. Je peux vous parler de la loi anti-coercition. Regardez ce qui se passe actuellement entre la Lituanie et la Chine. La Lituanie a pris la décision d'ouvrir un bureau de représentation diplomatique de Taïwan en Lituanie. Résultat des courses, la Chine a pris la décision de bloquer toute importation en provenance de Lituanie sur le sol chinois et même tout produit qui a des composants ou même un seul composant lituanien dans la composition de son produit. C'est absolument scandaleux, c'est absolument contraire à l'affirmation justement d'une souveraineté européenne. Eh bien, nous sommes en train de bâtir un outil dit anti-coercition, fort, puissant, qui nous permettra de réagir tout de suite, de mener des représailles tout de suite face à des États. Alors, la Chine, par exemple, qui a des pratiques, coercitives. C'est un exemple concret du changement de paradigme et de la fin de la naïveté européenne pour bâtir cette autonomie stratégique, seule possibilité de réindustrialiser d'une façon pérenne notre pays.
Je vais vous mettre à l'aise avec deux lois qui nous plombent actuellement. La loi AG, c'est-à-dire l'AGEC, c'est-à-dire celle qui conduit à faire de l'antiplastique et qui nous met dans l'embarras pratiquement tous. Et puis la loi climat qui nous empêche de nous réinstaller quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met 6 mois minimum en France, sinon 1 an ou 2 ans pour nous installer, alors qu'il suffit d'aller de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté des Alpes pour qu'en 27 jours, on soit installé. Donc on a bien un problème. D'un côté, on nous dit on nous allège, et de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a une loi, on nous plombe. Alors il faut arrêter de nous plomber sans arrêt. Je pense qu'il faudrait que vous regardiez comment les lois actuelles plombent l'industrie française par rapport aux étrangers.
Oui. Alors c'est vrai, je vais pas vous mentir que parfois il y a des lois qui sont qu'il faut regarder de près. Il y a une administration qui travaille, qui prépare une loi sans regarder que en termes d'attractivité, ça peut être un problème ou en termes de facilité derrière pour les entreprises d'investir. Alors, vous savez, je suis chef d'entreprise moi-même, je sais à quel point d'une PME et je sais à quel point c'est important de simplifier la vie des PME. Le président de la République, je peux vous l'assurer, est très sensible à ces questions-là et dès qu'il peut faciliter les choses, il le fait. J'étais ministre de la Culture. Quand il y a eu des lois qui ont été votées pour justement faciliter un certain nombre d'investissements dans les territoires et pour simplifier un certain nombre de procédures, et j'ai eu beaucoup de défenseurs du patrimoine qui justement sont montés au créneau à un moment donné pour dire « attention, vous êtes en train de mettre en péril l'avenir de notre patrimoine ». Donc c'est tous ces équilibres très complexes qu'il faut savoir à la fois veiller à conserver et en même temps améliorer la compétitivité, l'attractivité du pays. Je rappelle qu'aujourd'hui quand même, la France est le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers.
Mais c'est également celui dont le commerce extérieur est le plus exposé. On est quand même 83 milliards de déficit. Donc, il y a bien un problème.
Je sais bien, mais on ne va pas résoudre en quelques années, en quelques mois ou quelques années, la désindustrialisation de 40 ans. Pardon, mais il faut un peu de temps. Là, je vais rencontrer des investisseurs indiens, des investisseurs qui investissent dans le monde entier. Aujourd'hui, la France, depuis 2019, est le pays en Europe où les investisseurs étrangers investissent le plus. Devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, et y compris en matière industrielle, parce qu'ils considèrent que c'est le pays aujourd'hui qui est le plus attractif pour leurs investissements. Et on sait que il y a effectivement des freins en France spécifiques qu'on connaît, c'est le climat social et la question de la complexité administrative. Un certain nombre de facilitations ont déjà été faites, je l'ai dit, et on a mis des dispositifs, par exemple par Business France, qui gère l'accueil des investissements étrangers en France, pour simplifier les programmes d'investissement, pour aller plus vite
c'est d'accueillir l'investissement français en France. Alors, le problème, c'est l'investissement français. Ouais. C'est là où on est coincé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à investir. Mais
vous avez, par exemple, aujourd'hui, des terrains qui sont identifiés avec des procédures allégées, clés en main, partout en France, dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, qui permet à des entreprises tout de suite d'avoir des procédures allégées pour permettre l'investissement tout de suite. Cela dit, la crise, la guerre en Ukraine va conduire immanquablement à revoir un certain nombre de politiques en France et en Europe à l'aune de ce nouvel environnement géopolitique, économique, énergétique et commercial. Ce qui se passe en Ukraine va être un changement majeur, évidemment, de la réalité de nos entreprises sur le court, moyen et long terme, et pas seulement pour les entreprises qui sont impliquées en Ukraine ou en Russie, je vous le dis, et en même temps qui va contraindre l'Europe à bouger. Je vous donne un exemple sur l'agriculture. Dans le programme qui va de la farm to fork, c'est-à-dire de la ferme jusqu'à l'assiette, de geler sur quelques années des terres agricoles à hauteur de 10%. On voit bien qu'avec le manque considérable de matières premières agricoles, que cet élément-là devra évoluer immanquablement pour que les terres...
Alors, moi j'ai une question.
Enlever les normes.
Alors, Sophie l'a dit. Alors, monsieur le ministre, je vous pose une question. On essaie d'avancer dans le débat. On essaie d'avancer. Vous êtes au chevet des entreprises françaises en Russie. Je voulais revenir à l'actualité. Beaucoup d'entreprises françaises sont implantées là-bas. Et parallèlement, l'Allemagne a plutôt choisi la stratégie d'exporter là-bas. Donc voilà, on voit le choix entre des pays qui gagnent les sites de production dans leur pays qui exportent, ou bien nous en France on se retrouve avec des milliers de Français là-bas. Ça nous dit beaucoup de choses sur la manière et la localisation où l'on doit implanter ces sites de production, non?
Oui, le choix, c'est les entreprises qui ont été contraintes justement pendant 40 ans pour rester compétitives de devoir se délocaliser dans bien des cas. Et ça, j'en suis absolument convaincu. C'est pour ça qu'on mène toute cette politique d'amélioration de la compétitivité avec, encore une fois, des décisions qui ont été prises, qui ont des décisions qui ont été demandées par beaucoup, mais qui n'avaient jamais été faites et que ce gouvernement a mis en œuvre, notamment en matière fiscale. Deuxièmement, il y a aussi une partie de la stratégie française, et celle-là, je pense qu'elle est bonne, qui est aussi d'implanter sur place des entreprises, des infrastructures de production pour être au plus près des marchés et d'être plus compétitif et de bâtir des partenariats aussi, notamment dans les pays de développement, gagnant-gagnant. Et c'est par exemple une des façons qui nous différenciera d'un certain nombre d'autres pays dans le déploiement de notre pays en matière économique en Afrique, par exemple. Cela dit, si on regarde le sujet spécifique de la Russie, c'est vrai qu'on a quelques entreprises qui sont très exposées. Je pense à la Société Générale, je pense à Renault, je pense à Auchan, je pense à Total, par exemple, qui sont très exposés. Quand vous êtes Auchan, que vous faites de la distribution, vous êtes obligé d'avoir des magasins, donc vous êtes obligé d'investir localement. Quand vous êtes la Société Générale, vous êtes une banque, vous avez des agences bancaires, vous êtes obligé d'être sur le terrain. Bon, donc,
bien sûr, mais justement, quand vous dites ça, vous avez tout à fait raison, mais j'ai vraiment la sensation, et c'est la sensation des industriels éthiques, c'est que c'est indéfiniment de la macroéconomie où l'État pense. Très honnêtement, les industriels ou ceux qui veulent investir, les petites et moyennes entreprises, n'ont pas de contact, ne sont pas contestés. Vous l'avez parlé des administrations, c'est vrai, c'est elles qui gèrent. Et lorsque, si vous les aviez, si vous les consultiez régulièrement, des boîtes de toute taille, vous seriez comme nous, et vous avez reçu, et vous allez le recevoir encore, les constats de notre commission, c'est que vous verriez immédiatement où sont les freins. Et on a tendance en France, y compris d'ailleurs le président, qui a été formidable pour aider les boîtes, on est bien d'accord, qui aime les Startup Nation, qui invite les grands à Versailles, le CAC 40. Il y a 3 millions de boîtes en France, par contre, auxquelles on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on a des organisations représentatives que vous savez ce qui se passe sur le terrain. Or, le terrain, ce n'est pas ça. La petite industrie, on en a dans notre commission, on a des grands et des petits. Quand elle raconte ce qu'elle vit au quotidien, c'est complètement, déconnecté de ce que vous dites. Donc c'est un vrai problème français qui est dans tous les secteurs.
Pardon, Sophie.
On n'a pas d'interlocuteur.
Il veut vous répondre, Sophie. On l'écoute.
Sophie, non mais pardon, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, Sophie. Franchement, je vous dis, moi je suis chef d'entreprise, je suis aussi élu local, je discute avec ces chefs d'entreprise et je peux vous dire aujourd'hui que les choses changent sur le plan de relance et il est encore temps de le faire. Il y a un sous-préfet identifié dans chaque département qui a la responsabilité d'être en contact avec les entreprises, que les entreprises appellent la préfecture demandent à parler au sous-préfet à la relance, et c'est quelqu'un qui est identifié.
Ça dépend du préfet, des contacts, si vous saviez la complication quand on appelle le préfet.
Mais c'est pas compliqué. Maintenant, je vous assure, Sophie, c'est pas compliqué.
Ah bah si.
Tout le monde peut
prendre
un téléphone.
Nous, on sait que c'est compliqué. Désolé.
C'est pas compliqué. Mais si. Bah, qu'est-ce qu'il faut
pour
faire
vous, c'est peut-être pas compliqué, mais pour nous, oui.
Mais non, c'est pas compliqué, je vous le dis. C'est pas compliqué aujourd'hui. Attendez, je veux finir. C'est pas compliqué d'appeler la préfecture et demander le sous-préfet à la relance. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'avoir un conseiller Team France Export aujourd'hui qui est identifié par les chambres de commerce et d'industrie que tous les entreprises connaissent et qui est un interlocuteur unique par département et qui est identifié.
Non mais vous avez raison sur le papier, je veux bien croire que ça va progresser. Moi je vous conseille de faire des appels mystères, monsieur le ministre. Quelques petits appels mystères.
On n'a pas besoin de conseils, on sait ce qu'il faut faire. C'est pas vrai, ça. On n'a pas besoin d'un sous-préfet de conseil, on a besoin de revenir compétitif.
Vous avez besoin de quoi?
De moins de normes et de moins de règlements. Du fait qu'à chaque fois que vous preniez une norme ou un règlement ou une directive, vous réfléchissiez à la conséquence réelle sur l'industrie.
Une fois qu'on a dit ça, on fait exactement l'inverse. Et concrètement les sujets. Sur l'exportation, quand vous avez un problème, une question, une interrogation, ça c'est du concret. Quel dédouanement en douane? Comment je peux baisser mon coût de prospection pour aller dans telle foire? Comment je fais pour avoir une équipe qui est sur place aux États-Unis, en Chine, au Japon pour m'aider à exporter? Ça c'est du concret. Et du concret, on peut vous aider à le mettre en place en baissant votre coût pour tous ces éléments-là et vous conseiller, vous orienter vers les bons interlocuteurs. Donc, il y a des conseillers Team France Export dans chaque département. Il y a une personne identifiée,
monsieur le ministre,
qui est accessible pour les chefs d'entreprise
un tout petit mot. D'abord, je sais toute l'énergie que vous y mettez. Je sais que vous allez dans le bon sens. Je voulais juste vous dire qu'à Etic, on a fait venir un avion avec 45 millions de masques parce qu'on n'en avait pas pour nos salariés. C'est nous avec une boîte d'Etic. L'avion est resté bloqué en douane pendant 3 jours en plein Covid parce qu'on n'avait pas coché la bonne case du questionnaire. Et c'est vrai. C'est Bercy qui a fini par débloquer en appelant tout ce qui était possible d'appeler pour essayer de débloquer ça. Et ça, c'est un problème majeur. C'est comme ça pour tout le diable est dans les détails.
C'est vrai, mais vous avez raison. On avance et on a fait beaucoup et il faut continuer parce que c'est absolument clé. Il est évident que quand c'est trop complexe... Regardez, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, si vous voulez exporter un carton de 6 bouteilles de vin, en Allemagne, vous avez l'obligation d'avoir à des particuliers en Allemagne, un couple à Berlin qui veut acheter 6 bouteilles de vin d'Alsace. Aujourd'hui, l'exportateur doit passer par un représentant fiscal en Allemagne. Une complexité folle. C'est dans les échanges avec les chefs d'entreprise que j'ai identifié ce sujet-là. À partir de tout début 2023, il faut un an parce que c'est les procédures, etc. Mais enfin, à partir de début 2023, il n'y aura plus besoin d'un représentant fiscal pour exporter du vin à des particuliers en Allemagne. Et deuxièmement, il y a des droits qui sont à payer en Allemagne quand il y a des importations de vin en Allemagne, les droits d'assises. Et ces droits-là vont être dématérialisés par une procédure que nous sommes en train de mettre en place, un système informatique pour dématérialiser tout ça, pour simplifier la vie des exportateurs.
On espère que ce ne sera pas seulement pour les vins d'Alsace.
C'est un exemple concret d'amélioration, Sophie.
Pour les vins de Bourgogne aussi.
Vins de Bordeaux.
Monsieur le ministre, comment peut-on faire pour produire ce que veulent les gens? Il y avait cette image d'Épinal, on a souvent dit, pour parler des produits français, des produits de qualité espagnole avec des prix allemands, ça s'était resté il y a longtemps. Les fleurons de la France, il y en a plein également dans les PME, les ETI. Comment vous les accompagnez?
Qui ne nous accompagne pas?
Écoutez, on n'a pas besoin d'accompagnement. Moins de normes.
Oui, mais la question nous trouble. Je ne veux pas qu'on accompagne. Comment peut-on les accompagner? Ça veut dire qu'ils vont faire à notre place.
J'ai compris.
Comment ça se passe?
Il y a moins de normes.
Liberté de la liberté.
Attends, il est loin pour le son. Oui, on essaie de parler.
Si vous voulez, moins de normes, on peut finir la discussion là. Il y a besoin de moins de normes. OK. Et on y travaille. Je vous ai donné un exemple où on simplifie les normes. Il y en a eu beaucoup de simplifiées. Et il faut aller encore beaucoup plus loin, on est absolument d'accord. Ensuite, je vous le dis, pour la réindustrialisation et pour permettre qu'on soit plus performant au commerce extérieur en France, il faut une meilleure compétitivité, continuer de baisser les impôts, continuer de simplifier, continuer de miser sur la formation des équipes. Vous savez, c'est pareil, on nous avait dit, et vous, les entreprises d'éthique, à juste titre, comme beaucoup de chefs d'entreprise, on a besoin de former des jeunes, d'aider-nous à avoir des apprentis. On n'a jamais eu autant d'apprentis en France, plus de 700 000.
Oui, c'est un record. C'est nous qui faisons tout le boulot. Historique. Heureusement qu'on est là parce que sinon ils ne sont pas formés.
Mais bien sûr. Mais on a mis des moyens en face pour que ça soit plus un poids aussi important pour les entreprises. Et d'ailleurs, les entreprises ont joué le jeu parce qu'on a mis des moyens pour ça. Ça, c'est un accompagnement utile. Donner les moyens aux entreprises de former des jeunes aux qualifications dont les entreprises ont besoin. C'est aussi donc avoir des accompagnements sur l'innovation. Si les entreprises savent vers quelle innovation il faut aller, il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire sans que ça pénalise pas trop leur compte de résultats. Et c'est tout le travail qui va être fait avec France 2030 et de la prolongation du crédit d'impôt recherche. C'est la politique commerciale européenne. Combien de fois, Sophie, vous m'avez dit, mais on est complètement naïfs.
Monsieur le ministre,
vous
venez parler du crédit d'impôt recherche. Sachez que nos entreprises ne peuvent plus avoir le crédit d'impôt recherche, tellement c'est compliqué. Et nous sommes obligés d'avoir des gens nous disent comment il faut remplir les papiers et ils prennent 10% du crédit d'impôt recherche. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que d'un problème simple qui avait été créé avec Hubert Curien, on se retrouve aujourd'hui avec un formulaire de 400 pages qu'on est incapable de remplir. Voilà la situation. C'est ça. On n'arrive pas. On n'a pas le droit.
On le laisse répondre, s'il vous plaît. Il a la gentillesse de nous donner un petit peu de temps. On va essayer d'écouter le ministre, si vous le permettez.
C'est tout à fait juste. Et il y a tout un travail de simplification du contrat du crédit impôt recherche qui est en cours, notamment de dématérialisation de tout ça. C'est un chantier lourd parce qu'il y a évidemment, il y a toujours des petits malins qui contournent la loi et qui pénalisent tous les autres et qui profitent du système alors qu'ils ne devraient pas en profiter. Donc il faut des systèmes qui permettent d'éviter ça. Mais il faut simplifier massivement le crédit d'impôt recherche. Ce que vous dites est tout à fait juste en la matière.
Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. On vous libère pour votre zone
d'emploi. Mais on apprécie beaucoup votre action quand même.
Exactement. Et je précise, vous n'êtes pas ministre de l'Industrie. Merci. Vous avez quand même abordé toutes ces questions qui concernent essentiellement l'industrie. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on poursuit ce débat, vous le voyez, extrêmement animé, avec nos invités, Loïc Le Floch-Prigent, PDG de LLFP Consulting. Merci, notre présidente, d'avoir invité tout un panel. Dans un instant, nous serons avec Christian Estrosi, maire de Nice, ancien ministre de l'Industrie. Et je vous présente nos invités dans un instant. Restez avec nous.